Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie, bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Cette semaine, je reçois la philosophe écoféministe Jeanne Burgard-Goutal à l'occasion de son ouvrage Resisters. Resisters est un roman graphique. Resisters est un roman graphique qui a été imaginé par Jeanne et dessiné par la talentueuse Aurore Chapon. J'espère que notre conversation autour de l'écoféminisme et du parcours de Jeanne Burgard-Goutal vous plaira. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Jeanne.
Bonjour Jeanne.
Comment vas-tu ?
Tu es bien et toi ?
Très bien, merci. Je suis ravie de te recevoir au micro après avoir suivi ton travail pendant des années.
Merci.
Je suis très très contente et honorée que tu participes à cet épisode. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît ?
Oui, alors je m'appelle Jeanne Burgard-Goutal, je suis prof de philo. J'enseigne à Marseille dans les quartiers nord, en terminale. Et je travaille depuis à peu près 10 ans sur l'écoféminisme, à la fois avec une recherche théorique, philosophique, et aussi avec une recherche qui est devenue de plus en plus pratique, vécue à travers des immersions. Enfin voilà, je suis sortie des bouquins pour aller sur le terrain et m'impliquer dans cette recherche. Et j'en ai tiré 2 livres. Un premier livre qui est sorti en 2020 qui s'appelle « Être écoféministe théorisée pratique », qui est une enquête philosophique sur l'écoféminisme, à la fois son histoire et puis comment il se manifeste actuellement, concrètement, en France et aussi en Inde, où j'ai passé quelques mois. Et le deuxième livre, c'est un roman graphique qui est sorti là en octobre 2021 avec la dessinatrice Aurore Chapon et qui s'appelle « Resisters », qui est sorti aux éditions Tana et qui est là aussi sur l'écoféminisme, mais avec une approche de fiction. Ça se passe en 2030, il y a voilà, une histoire, une enquête des personnages pour présenter l'écoféminisme, mais à travers une histoire et aussi un imaginaire visuel par le dessin d'Aurore.
C'est très différent. On est sur 2 ouvrages complètement différents. Moi, j'ai adoré ce roman graphique dont on reparlera. Je trouve que s'intéresser à la fiction aussi, c'est très intéressant. J'aimerais d'ailleurs qu'on revienne plus tard sur ce choix que tu as fait de, voilà, de travailler sur la fiction. C'est un autre défi aussi que tu t'es lancé. Mais avant, je voudrais qu'on revienne sur ton quotidien, à savoir celui de professeur de philosophie. Comment est-ce que tu en es arrivé à enseigner la philosophie et à enseigner le yoga aussi, puisque tu es prof de yoga? Alors, est-ce que tu l'enseignes?
Alors, plus ou moins. En fait, j'ai fait une formation de prof de yoga et je pratique beaucoup. Depuis 10 ans aussi à peu près, en fait, ça date à peu près du même moment que ma découverte de l'écoféminisme.
C'est intéressant.
Même si j'ai pas tout de suite vu les liens. Maintenant, pour moi, ils sont évidents, mais au début, c'était des choses complètement séparées. Et alors, je donne pas de cours réguliers. Je voulais mettre en place des cours au lycée pour pouvoir donner des cours gratuitement accessibles à tous les élèves. Mais avec les mesures sanitaires, le protocole, les masques et tout, c'est pas vraiment possible. Donc je ne donne pas cours réguliers, mais par contre je commence à faire des conférences, ateliers qui mélangent philosophie du yoga, parce qu'en fait il y a vraiment plein de textes philosophiques depuis des siècles qui guident ce que c'est que la quête du yoga. Et donc en mélangeant ça avec quelques pratiques guidées, et voilà, je pense que mes prochains bouquins seront sur le yoga d'ailleurs.
Ah, tu nous dévoiles quelque chose. Et donc ce métier de professeur de philosophie, est-ce que c'était un rêve d'enfant que d'enseigner? Alors j'imagine pas la philosophie en étant enfant, t'en avais peut-être pas conscience, mais enseigner, et puis comment tu en es venue à enseigner la philosophie?
Non, c'était pas un rêve d'enfant. Enfin, je pense que comme toutes les petites filles, parmi les métiers envisagés, il y a un moment où je me suis dit maîtresse. Mais non, le métier qui m'a tenue en tête le plus longtemps, c'était photographe d'animaux sauvages planqués dans la forêt. Bon, finalement, ça s'est pas vraiment réalisé. Mais en fait, bon, ça s'est fait vraiment dans la continuité de mes études, voilà, où après des études littéraires, j'ai fait des classes prépa littéraires, normal sup, agrégation de philo, un peu sans, en étant sur des rails, en fait, sans vraiment me demander ce que je voulais faire. Et puis du coup, après ce début assez rapide, une fois devenue prof de philo, c'est là que je me suis dit, oula, en fait, est-ce que j'ai envie de faire ça ? Et d'ailleurs, j'ai déjà pris 5 années sabbatiques parce que j'ai régulièrement besoin d'arrêter. En fait, dès la validation de mon concours de prof de philo, j'ai arrêté pendant 3 ans parce que j'adorais la transmission aux élèves et la philo et qu'en même temps, représenter l'autorité et l'institution, c'est très dur pour moi. Et finalement, à chaque fois, je fais le choix d'y retourner. Et à chaque fois, quand j'enseigne pas, ça me manque. Je pense tout le temps à comment je pourrais expliquer ça à des élèves quand j'entends des trucs, quand je lis des trucs. Et maintenant, voilà, c'est un métier qui, pour moi, est, je pense, la place où je... Même si peut-être qu'il y a une forme de naïveté là-dedans, mais où je pense pouvoir avoir peut-être un petit rôle de transformation sociale. En ayant passé pas mal de temps, notamment dans mes recherches sur l'écoféminisme, dans des bulles de voilà, super marginales, de communautés hyper alternatives, autonomes, ou vivant en yourte, sans eau, sans électricité, et en ayant cru moi-même que je voulais ou que je devais vivre de cette façon-là pour être vraiment cohérente, en fait, j'en suis arrivée à la conclusion que non, que ces bulles-là, c'est pas forcément la bonne solution, en tout cas c'est pas pour moi, et que là où c'est possible de œuvrer à la transition, c'est plutôt en étant au sein du système éducatif. Donc voilà, sans du tout faire de propagande auprès de mes élèves, c'est un peu aussi comme ça que je me représente mon métier, comme un endroit de possibilité d'éveiller les consciences des jeunes à des sujets nouveaux.
C'est là que tu trouves ton équilibre.
Oui. Alors un équilibre, c'est compliqué en ce moment, l'évolution de l'éducation nationale et de la jeunesse. Mais en même temps, c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant dans l'action.
C'est intéressant ce que tu dis, que du travail que tu as fait en fait et du cheminement d'avoir essayé de vivre dans ces lieux alternatifs. On va y revenir parce que j'aimerais comprendre si ces lieux alternatifs sont aussi une représentation de l'écoféminisme. Est-ce qu'ils appliquent les codes de l'écoféminisme ? Mais pour cela, il faut qu'on définisse l'écoféminisme, sinon on risque de perdre les auditeurs et les auditrices.
Alors, l'écoféminisme, c'est pas très facile à définir parce que c'est pas un courant unifié, mais c'est au contraire une nébuleuse de groupes, de mouvements, de pensées qui ont toujours revendiqué leur diversité. Donc, certaines personnes préfèrent d'ailleurs parler des écoféminismes au pluriel pour bien faire sentir cette diversité. Alors, cela dit, on peut quand même essayer de préciser un petit peu. Donc, c'est pas un concept abstrait à la mode qui viendrait de sortir, même si en France, ça fait que peu de temps qu'on en entend parler. Mais en fait, ça renvoie à un mouvement qui est né dans les années 70. Généralement, on considère que la personne qui a inventé le mot écoféminisme, en tout cas qui l'a écrit pour la première fois dans un livre publié, c'est Françoise Daubonne, en 1974, dans Le féminisme ou la mort. Donc Françoise Daubonne, c'était une des cofondatrices du MLF, le mouvement de libération des femmes, et la fondatrice aussi du FAR, le Front homosexuel d'action révolutionnaire. Et elle a cherché à articuler le féminisme avec d'autres engagements politiques qui lui semblaient vraiment devenir de plus en plus cruciaux dans les années 70, et en particulier l'engagement écologiste. Et c'est ça qui l'a conduit à inventer ce mot écoféminisme, en disant si le féminisme veut vraiment être à la hauteur des grands enjeux, des grands défis de cette fin de siècle, il peut plus se contenter d'être juste un combat par les femmes, pour les femmes, pour des enjeux particuliers, égalité salariale, contraception, qui sont des enjeux importants, mais qui pour elle étaient insuffisants. Et l'idée avec l'écoféminisme, c'est d'élargir le combat féminisme à un mouvement destiné à abolir toutes les formes d'oppression et toutes les formes de domination, que ce soit entre les humains, ou entre les humains et les non-humains, ou des sociétés humaines sur la nature. Ce mouvement, en fait, il a surtout pris son essor dans le monde anglo-saxon, même si le mot était français. Et donc les grandes mobilisations écoféministes, elles ont lieu surtout à la fin des années 70, début des années 80, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie, également en Inde. Et à chaque fois, le point commun de toutes les mobilisations écoféministes et de toutes les pensées, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de théorisation autour de ces luttes, c'est d'articuler étroitement l'écologie et le féminisme, mais en fait plus largement l'écologie et tous les enjeux de justice sociale, donc entre hommes et femmes, mais aussi entre classes sociales, de justice raciale, de justice internationale entre les pays du Nord et les pays du Sud, et d'œuvrer là où ça se noue, d'essayer de comprendre en fait comment ces formes de domination ou d'oppression ou d'exploitation sur la nature, sur les femmes, sur les classes dominées, sur les peuples racisés ou colonisés, comment ces dominations se relient historiquement, comment elles font système au sein du capitalisme mondial, et d'essayer de mener des actions qui ne vont pas séparer les enjeux, mais au contraire qui vont essayer d'agir là où ça se connecte et d'essayer de défaire la matrice de domination elle-même et pas juste telle ou telle forme de domination particulière.
Est-ce que tu as des exemples de mobilisation ? Tu parlais de mobilisation au Royaume-Uni, aux États-Unis. Est-ce que tu as un exemple à nous partager ?
Oui, alors l'exemple peut-être le plus spectaculaire, parce que c'est le plus durable dans le temps, c'est le campement antinucléaire de Greenham Common en Grande-Bretagne, qui a commencé en 1981. Donc à la base, c'est juste 36 femmes qui militaient dans des assos pacifistes, féministes, antinucléaires, écologistes, antiracistes, bref, qui avaient des engagements pour des causes assez variées, qui, apprenant que la Royal Air Force voulait installer des missiles nucléaires sur une base militaire sur le sol britannique, parce que c'est en pleine guerre froide, donc il y a le bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest, et puis l'Europe est utilisée comme un des terrains de cette intimidation mutuelle des deux blocs. Donc apprenant qu'il y a ce projet de stocker des missiles nucléaires sur le sol britannique, quelques femmes convergent vers la base, et en fait, elles s'installent. Donc elles ne font pas juste une manif un jour dans la rue, mais c'est vraiment une forme de protestation qui est un peu une sorte de précurseur des ZAD, de créer un blocus et de créer sur place, en lutte contre un projet destructeur, un mode de vie alternatif. Et donc certaines sont restées jusqu'en 2000, donc ça fait 19 ans. même celles qui sont restées moins longtemps, en fait, ce qui est intéressant dans cette mobilisation, c'est que ça montre bien que dans l'écoféminisme, il y a toujours eu l'idée de pas seulement militer pour qu'un jour peut-être advienne un monde meilleur, mais d'essayer de voir comment ici et maintenant, on peut expérimenter d'autres modes de vie, d'autres rapports entre les hommes et les femmes, avec les ressources, d'autres types de consommation, d'autres types d'habitat, d'existence, pour incarner le plus possible les idéaux écoféministes.
C'était aussi l'exemple que j'avais en tête, qui est, je pense, le plus emblématique. Est-ce qu'il n'y avait que des femmes sur ce campement ?
Alors, c'est un campement qui a cherché à redéfinir les rapports entre hommes et femmes. Donc, dans les personnes qui étaient vraiment sur place en permanence, c'était un campement non mixte. Mais en fait, les hommes avaient un rôle à jouer dans le mouvement qui était plutôt un rôle d'arrière-base. C'est-à-dire que c'était les femmes qui étaient au front, qui menaient les actions dangereuses, qui essayaient de pénétrer sur la base militaire, qui affrontaient la police, qui prenaient les décisions, faisaient ce qui demandait de la force physique, etc. Bref, des rôles qui, d'habitude, même dans les collectifs militants qui se veulent super progressistes ou super égalitaires, c'est des rôles qui continuent généralement à être pris en charge par les hommes. Et donc les hommes, pendant ce temps, bah, eux, ils s'occupaient de ravitailler les femmes, prendre leur linge sale et puis le laver, puis ramener du linge propre, s'occuper des enfants. Donc il y avait une inclusion des hommes au mouvement, ils n'étaient pas exclus, mais leur rôle était redéfini d'une façon différente des façons habituelles. Et après, il y a eu aussi des moments de mobilisation où là, elles faisaient venir tout leur réseau militant pour des grandes chaînes humaines autour de la base, par exemple. Et là, c'était des moments de mixité.
D'accord. Tu l'as dit, tu as essayé, toi, de vivre dans ces lieux alternatifs. C'était justement après avoir découvert l'écoféminisme et dans ta quête de trouver une société qui correspondrait à tes attentes, qui allie toutes les valeurs de l'écoféminisme, ou est-ce que c'était au préalable ?
Bah, en fait, moi, je crois que j'ai toujours été fascinée par les marges et la marginalité. Avant de découvrir l'écoféminisme, pendant plusieurs années, j'enseignais dans une petite ville de Basse-Normandie. Et j'étais en coloc avec un réalisateur de documentaires écolo qui se définit comme écolo hardcore et qui est décroissant et qui vivait vraiment... je pense que ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas acheté un meuble, une fringue. On tirait pas la chasse quand on faisait pipi, on récupérait l'eau de la rivière pour plein de trucs, etc. Et lui, il avait plein de potes qui vivaient dans des maisons en paille qu'ils avaient construites eux-mêmes ou dans des yourtes. Et moi, en fait, je découvrais ça puisque avant j'avais vécu en banlieue et à Paris et je connaissais pas à Paris des gens qui vivaient en yourte. Et ça m'a tout de suite vachement fascinée en fait, cette question de comment on peut vivre différemment de la façon dont on vit. Parce que dans la vie moderne, avec son rythme, ses horaires, bon, à la fois il y a une sorte de confort et d'organisation fonctionnelle, et à la fois moi je crois que j'ai toujours souffert en fait de ce rythme très rapide, complètement déconnecté des cycles naturels, et que plus ou moins consciemment, j'ai toujours cherché comment c'était possible de vivre autrement, d'une façon qui soit plus qui fasse plus sentir notre appartenance au cosmos, qui donne moins l'impression d'être une sorte d'espèce complètement bizarre, hors norme, séparée du reste, ce qui était une source de souffrance des petites filles, je crois. Et donc après, en fait, ça a pris forme d'une façon un peu plus spécifique quand j'ai découvert l'écoféminisme et que... de fil en aiguille, je me suis aperçue qu'il existait quelques personnes ou communautés ou ONG qui cherchaient à vivre en conformité avec les idéaux écoféministes. Mais voilà, ça précédait ma découverte de l'écoféminisme. Et je pense que d'ailleurs, c'est le cas pour beaucoup de jeunes femmes et jeunes filles qui sont impliquées dans l'écoféminisme, que c'est souvent précédé par une sorte de mal-être et de fascination. Alors des fois, ça peut prendre des formes naïves. Je pense que chez moi, ça prenait des formes très naïves de fascination pour les Amérindiens, voilà, toutes les histoires qui tournent autour de Pocahontas, la découverte de l'Amérique, le Nouveau Monde de Terrence Malick, le film, ça m'a complètement fascinée et obsédée. Et c'est vrai qu'à travers l'écoféminisme, on peut s'apercevoir que c'est pas juste des images qui font un peu rêver, mais qu'il y a des expérimentations réelles, alors plus ou moins réussies, plus ou moins foireuses, de vraiment changer de manière de vivre.
Et qu'est-ce que tu as retiré de ces expériences de vie un peu alternatives ou marginales ?
Alors, c'est compliqué parce que moi, j'ai abordé ça avec beaucoup d'idéaux en tête, avec une forme de naïveté et de purisme qui était, je pense, vachement liée à mes lectures. En fait, avant d'aller sur le terrain, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup lu et je m'étais vraiment monté le bourrichon à lire des écrits de plein de théoriciennes écoféministes, notamment de Vandana Shiva. Et c'est ça qui m'a donné envie d'aller dans son ONG. Et c'est vrai que Vandana Shiva, pour prendre cet exemple, dans ses interviews, dans ses bouquins, dans les documentaires où elle intervient, elle a un propos qui est super radical, elle est très charismatique, il y a quelque chose de très enthousiasmant et très puissant dans son discours. Et du coup, moi, ça m'avait vraiment mis en tête des images de perfection, en fait, de paradis sur terre. Je crois qu'au fond, c'est ça que je cherchais. Et en fait, évidemment, c'est mal barré, puisque le paradis n'existe pas sur terre, mais en fait... Il faut se confronter plein de fois à cette impossibilité pour finir par l'accepter, je crois. Et donc, dans mon arrivée dans l'ONG de Vandana Shiva, c'était très difficile, la confrontation de l'idéal au réel.
Tu étais ?
Oui, voilà. Ouais. Donc, son ONG, elle est dans le nord de l'Inde. Et c'est un centre de formation en agroécologie. Et puis moi, ce que j'avais compris du site, c'était que c'était une sorte d'expérimentation et de mise en pratique des idéaux écoféministes. Et une fois arrivée sur place, j'arrêtais pas de percevoir des contradictions entre la théorie et la pratique et entre les principes professés dans le discours et puis l'organisation concrète, les rapports de genre, il y a plein de choses qui quotidiennement me choquaient, que je percevais comme des incohérences avec le discours. Et en fait, au fur et à mesure, ces contradictions, et ma manière de les percevoir a changé. Au début, pour moi, ce qui était en faute, c'était la pratique. Et j'étais scandalisée de voir que, par exemple, dans les employés de l'ONG, on retrouvait des hiérarchies entre hommes et femmes, des différences de salaire, des différences de positionnement dans l'organigramme de l'ONG. Pareil en termes de caste, en termes de religion, etc. Et puis en fait, au fur et à mesure, à force d'observer, d'essayer de comprendre, je me suis rendu compte que quand il y a des contradictions entre la théorie et la pratique, des fois c'est la théorie qui est en faute. C'est que parfois, en fait, les concours de radicalité en théorie, de qui est le plus intersectionnel, qui a le plus réussi à avoir les idéaux les plus purs, bah, en fait, dans la réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est vrai que souvent, ces expériences ont été, au début, des expériences un peu de douche froide. Et ça aussi, ça a changé, c'est-à-dire ces derniers temps. Alors, je continue à adorer aller dans des... Enfin, voilà, faire du woofing ou aller dans des écolieux ou des spots comme ça un peu... alternatif. Mais maintenant, justement, j'ai mis de l'eau dans mon vin et je les aborde avec un intérêt pour le réel et un intérêt et une curiosité pour qu'est-ce qui foire, pourquoi ça foire, sans à chaque fois me dire « ouais, mais ça devrait pas être comme ça ». Et je pense qu'en fait, c'est ça la bonne voie. Parce qu'on peut pas changer la réalité si on commence pas par essayer de l'observer honnêtement et sincèrement et sans jugement. Et ça, c'est quelque chose que le yoga apprend aussi, à commencer par observer au lieu de tout de suite imaginer comment ça devrait être, ce qui en fait est plus un obstacle qu'une aide pour une transformation réelle et concrète.
Arrêter de juger sa pratique, ça fait partie du yoga tout à fait. Et c'est là qu'on fait le lien entre écoféminisme et yoga et finalement que tes deux pratiques se sont alignées.
Oui, alors... Il y a effectivement cet aspect-là de comment... Enfin, c'est-à-dire, là aussi, moi, venant vraiment de la théorie, la question de comment on agit, c'est pas ma formation.
Bah oui.
et c'est vrai que dans le yoga, je trouve qu'il y a un début d'expérimentation ou d'apprivoisement de comment transformer quelque chose de réel qui est notre propre corps, notre propre souffle. Ensuite, bon, ça peut être nos propres pensées et émotions, mais en tout cas, voilà, on voit qu'on est obligé de négocier avec quelque chose de réel. Et que c'est pas parce que je décide que je veux mettre mon pied derrière la tête que ça va marcher. Qu'il y a tout un apprentissage de comment faire, quelles sont les étapes, quelle est la patience à avoir pour progressivement tendre vers un horizon que peut-être on n'atteindra jamais, mais c'est pas une raison pour se décourager. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... l'apprentissage du changement, et évidemment l'écoféminisme, c'est une pensée qui vise à changer la réalité, à changer la société, les rapports entre les personnes, etc. Et puis au-delà de cet aspect, j'ai découvert aussi, en fait dans le yoga il y a plein de lignées différentes qui sont très variées, voire en contradiction les unes avec les autres. Enfin, le yoga peut vraiment être porteur de quêtes qui sont presque aux antipodes les unes des autres. Et moi, le courant qui me parle le plus, c'est un courant qui s'inscrit dans le yoga tantrique, qui s'oppose à des formes plus ascétiques de yoga où on vise une sorte de détachement total vis-à-vis du monde, de voilà, presque dépasser la condition humaine. Alors que dans le yoga tantrique, il y a une autre approche qui est plutôt une approche d'embrasser le réel dans tous ses aspects, y compris la colère, la douleur, la mort, le sexe, la drogue, etc. Et il y a beaucoup, beaucoup de points qui rejoignent la sensibilité écoféministe. Par exemple, il y a une grande importance accordée au féminin et à toute la symbolique du féminin, à la déesse, à la Shakti en sanskrit, qui est présentée comme étant vraiment la divinité. Ça rejoint des cultes chamaniques de la terre-mère ou de la mère cosmique, de la mère universelle. Donc sur le symbolisme spirituel on est vraiment dans quelque chose qui est très éloigné du christianisme, par exemple, où il y a vraiment une insistance là dans le tantrisme sur cette sacralité du féminin, qui ne s'oppose pas au masculin d'ailleurs, hein, qui l'englobe, qui a une forme d'androgynie, il n'y a pas du tout d'exclusion entre masculin et féminin. Et ça aussi, cette manière de dépasser la binarité, ça rejoint l'écoféminisme. Et il y a une manière de cultiver aussi la sensibilité, l'émotion, ce qu'on appelle le frémissement dans le tantra, et notre appartenance à la nature à travers le souffle. Il y a vraiment la conscience d'être en lien avec la biosphère. Alors évidemment, les textes tantriques disent pas biosphère, c'est anachronique, mais il y a cette notion-là de vraiment atterrir, de vraiment incarner notre condition de terrien, d'être vivant, en lien avec tous les êtres vivants de la nature.
Effectivement, c'est beaucoup plus lié que ce que je pensais et que ce que j'avais en tête. C'est très intéressant. Merci Jeanne de nous éclairer sur ce sujet. Est-ce que les écoféministes sont des femmes qu'on pourrait... appelées des sorcières, tu sais, ce terme assez galvaudé, mais qu'on entend parfois. Est-ce que c'est ça aussi une des définitions du terme sorcière, dont on ne sait pas vraiment ce qu'il signifie exactement ?
Alors, ça dépend. En fait, dans la nébuleuse écoféministe, il y a effectivement un certain nombre de penseuses et de militantes qui revendiquent cette figure de la sorcière. Donc, j'en parlerai juste après. Mais juste, je veux commencer par dire que c'est pas du tout la totalité des écoféministes. Qu'il y a au contraire des théoriciennes écoféministes et théoriciennes et activistes qui représentent un écoféminisme tout à fait... matérialiste, c'est au sens marxiste du terme, c'est-à-dire voilà, s'appuyant sur une analyse des structures matérielles, des rapports de production, la division sexuelle du travail, des rapports d'exploitation. Par exemple, Maria Miss, qui est une sociologue écoféministe allemande, qui a coécrit avec Vandana Shiva un livre qui s'appelle Écoféminisme. Elle a vraiment cette approche marxiste, tout à fait terre à terre, sans figure spirituelle ou revendication de l'identité de sorcière. Donc il y a toute une part de l'écoféminisme qui a pas du tout investi cette figure de la sorcière. Mais effectivement, il y a beaucoup de penseuses et de militantes qui, au contraire, se sont beaucoup intéressées à cette figure. Mais d'ailleurs, pas que dans l'écoféminisme, hein, c'est une figure du féminisme au sens plus large du terme. Et pour prendre peut-être un des exemples les plus connus, Star Hawke, donc qui est une écoféministe américaine, elle revendique vraiment, elle se définit comme sorcière. Et elle fait partie d'un courant de spiritualité magique, on peut dire, qui s'appelle la Wicca dianique, qui est la branche féministe de la Wicca. Donc la Wicca, c'est censé être une religion, une spiritualité ancestrale. Bon, en vrai, c'est une reconstruction du 19e siècle, mais c'est censé ressusciter des cultes très anciens de la nature, des rythmes naturels, où on fête les solstices, les équinoxes, les pleines lunes, les nouvelles lunes. Et dans la figure de la sorcière, donc il y a cette dimension-là de renouer avec, à la fois de renouer avec une figure de féminité puissante, et à la fois de renouer avec une figure de féminité en lien avec la connaissance de la nature et les puissances naturelles. Puisque, bon, on ne sait pas exactement qui étaient les sorcières, enfin les femmes qui ont été brûlées en tant que sorcières, mais très probablement c'était des guérisseuses qui connaissaient l'usage médical des plantes, notamment pour la contraception. Beaucoup étaient sûrement aussi sages-femmes et aidaient les femmes à avoir une maîtrise de leur pouvoir reproductif. Ce qu'ont révélé les historiennes féministes et écoféministes, c'est que la chasse aux sorcières, contrairement à ce qu'on croit souvent, c'est pas un truc qui a eu lieu au Moyen-Âge et qui serait le fait de l'église obscurantiste, mais ça a lieu plus tard, au XVIe, XVIIe siècle, donc au même moment que l'émergence de l'économie capitaliste et aussi que l'émergence de la science moderne. Et pour elles, ce n'est pas un hasard, et c'est à ça qu'elles se sont intéressées, à essayer de comprendre quel rôle la chasse aux sorcières, donc une espèce de campagne de terreur à l'égard des femmes indépendantes, généralement de classe populaire, dans les campagnes, quel rôle ça a joué dans la redéfinition des rapports de pouvoir et des rapports de savoir à cette époque-là, d'émergence du capitalisme et de la science moderne. Donc dans leur idée, c'est aussi une figure très politique. C'est pas que une figure de magie ou de spiritualité ou un peu mystique, mais c'est aussi un positionnement anticapitaliste. Elle incarne aussi la possibilité de rapports sociaux et d'un positionnement des femmes et d'une vie sociale rurale pré-capitaliste qui a été complètement bouleversée et abolie par les changements sociaux de cette époque-là. Mais il y a aussi cette dimension politique qui est très forte chez Starhawk et chez d'autres écoféministes qui utilisent ce terme.
Cette notion d'écoféminisme, est-ce qu'elle est forcément anticapitaliste, justement, puisque tu en parles et qu'on parle de politique? Est-ce qu'elle s'oppose forcément au système actuel, ou est-ce qu'il serait possible de concilier les deux, selon toi? Ou ça implique forcément une rupture?
Alors, en fait, ce que je constate, c'est qu'il y a actuellement une tentative de rendre conciliable l'écoféminisme et le capitalisme. On pourrait même dire une sorte de récupération de l'écoféminisme par le capitalisme. Voilà, par exemple, au cours de mes recherches, j'aimais bien faire des recherches d'images et j'étais tombée sur des images de coques d'iPhone siglées écoféministes avec des petites fleurs et tout ça, un joli graphisme. Mais là, on se dit, là, on est clairement dans une récupération totale. Je vois aussi passer des trucs du genre le sommet en ligne de l'entrepreneuriat écoféministe ou du leadership écoféministe. Donc je remarque que ça coexiste actuellement. Mais après, en fait, si on s'intéresse à l'histoire du mouvement et aux théories écoféministes, ça me semble quand même être vraiment un contresens total, puisque historiquement, les écoféministes, elles ont toutes défendu des positionnements vraiment très critiques à l'égard du capitalisme, avec la conviction que le capitalisme est nécessairement patriarcal, puisqu'il repose de façon camouflée sur la surexploitation du travail des femmes dans la sphère domestique et aussi dans la sphère professionnelle, que donc, dans leur optique, c'est incohérent d'être féministe et capitaliste à la fois. En fait, c'est qu'on ne s'aperçoit pas que le patriarcat et l'exploitation des femmes, du corps des femmes, du travail des femmes, du temps des femmes, de leur travail de care, est une des conditions du capitalisme. Et aussi, elles ont, justement, dans la conjonction de l'écologie et du féminisme qui définit l'écoféminisme, ça exclut les formes de féminisme ou d'écologie, d'ailleurs, capitaliste. Puisque l'idée, c'est que si on veut un féminisme écologiste, à ce moment-là, on est bien obligé de s'attaquer à un moment ou à un autre au capitalisme en tant que la cause de l'écocide, la cause de la destruction de l'environnement. On ne peut pas ignorer cette cause-là, ou à ce moment-là, c'est plus de l'écoféminisme. La dimension d'écologie, dans sa radicalité, elle est complètement évacuée. Et de la même façon, les écoféministes, elles se sont donc à la fois positionnées contre ce qu'on appelle le féminisme libéral, c'est-à-dire un féminisme compatible avec le capitalisme et qui voudrait juste qu'un peu plus de femmes privilégiées accèdent au haut de la pyramide. Mais dans leur idée, en fait, c'est incompatible avec un vrai positionnement écologiste et aussi avec un positionnement féministe qui veut une solidarité internationale de toutes les femmes. Et elles se sont aussi positionnées contre ce qu'on peut appeler la croissance verte ou le capitalisme vert, qui serait juste une sorte de verdir un peu à la marge le capitalisme, ou au fond une forme de greenwashing. Donc à partir du moment où on comprend les raisons pour lesquelles elles ont articulé écologie et féminisme, on voit que ça attaque nécessairement le fonctionnement même du système capitaliste.
Ce qui explique aussi qu'il n'y ait pas aujourd'hui de parti écoféministe, par exemple.
Oui, Alors, il y a eu des tentatives, enfin, en tout cas au moment des primaires écologistes, Sandrine Rousseau et Delphine Bateau aussi d'ailleurs avaient toutes les deux revendiqué l'étiquette écoféministe. Donc il y a eu une sorte d'incursion de ce mot dans la politique institutionnelle.
Pour la première fois d'ailleurs.
Oui, exactement. Mais c'est vrai que historiquement, justement du fait de la radicalité de leur critique du système, les écoféministes se sont méfiés des partis politiques et de la course électorale. Leur tradition de pensée politique, c'est plutôt une tradition anarchiste. Les idéaux ou les utopies qu'elles décrivent, c'est des petites communautés autogérées, autosubsistantes, rurales ou rurbaines, dans lesquelles il y aurait vraiment une forme de démocratie participative, d'autogestion, de démocratie directe. Donc quelque chose qui n'est vraiment pas du tout dans l'institution quoi, et dans la forme de l'État-nation. Ce qui est d'ailleurs une critique qu'on a pu leur faire, de dire, bon, en fait, elles rêvent en couleur et il faudrait mieux trouver comment s'inscrire dans la politique telle qu'elle fonctionne dans l'État-nation. Mais c'est pas ça la tradition de pensée dont elles viennent.
Très intéressant, merci beaucoup Jeanne. On papote, mais j'aimerais quand même qu'on revienne à ce pourquoi tu es là aujourd'hui. Alors, pour tout ce que tu as dit avant aussi, mais pour ton actualité du moment, à savoir la sortie de votre roman graphique, puisque vous l'avez imaginé à deux. Alors moi, je disais « résister », mais en fait, c'est « resisters », comment dit-on ?
Oui, c'est un peu imprononçable. Moi, je dis « resisters », notre éditrice, elle dit « resisters ». Bon, en tout cas, il y a un jeu de mots
d'accord,
entre voilà. « résister » et « sisters », donc les sœurs en anglais.
Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Tu l'as dit, c'est une fiction. Pourquoi avoir exploré la fiction ? J'imagine que le défi était encore plus grand que pour ton précédent ouvrage.
Oui, bah, c'est vrai que moi, je n'avais pas fait de fiction depuis les rédacs du collège. Donc, c'est effectivement un gros défi. Et je n'étais pas du tout sûre d'y réussir. Mais heureusement, Aurore Chapon, donc la dessinatrice, on s'est vraiment encouragés mutuellement dans le travail. Enfin, c'était une collaboration vraiment géniale. Et en fait, notre idée, quand on a commencé à travailler ensemble, c'était de se dire que, bon, déjà, la fiction, c'est un genre qui est plus accessible. Enfin, tout le monde n'a pas envie de se farcir une enquête philosophique de 300 pages comme mon précédent bouquin, même si, semble-t-il, il est facile et agréable à lire.
Je confirme.
faut quand même y aller, quoi. Donc on se disait que c'était bien pour pouvoir embarquer d'autres lecteurs que pour mon précédent livre.
Toucher un public plus jeune aussi ?
Oui, ouais, exactement. Enfin, en tout cas, moi, en écrivant, c'est vrai que je ne me suis pas représentée le même lectorat potentiel que pour le livre précédent. Et il y avait l'idée, voilà, plus jeune. Un des intérêts de la fiction aussi, c'est que, en tout cas pour moi qui viens de la philo, quelque chose qui est super important et libérateur dans la fiction, c'est qu'on est un peu libéré de l'exigence de la vérité ou de l'exactitude. C'est beaucoup plus facile d'explorer plein de points de vue différents, d'autant que là j'ai fait le choix d'une sorte de roman choral où en fait on ne suit pas un héros ou une héroïne qui aura une trajectoire individuelle, mais il y a plein de personnages qui incarnent des positions sociales différentes, des rapports au monde différents, des positions idéologiques différentes, et qui du coup permettent vraiment de pas être dogmatique, de pas être dans je vous dis la vérité et c'est comme ça. Je crois que je faisais pas ça dans mon précédent livre, mais voilà, c'est plus délicat dans la théorie. Et là, à travers la fiction, ça permet vraiment de rendre compte de la complexité des points de vue et de la différence entre des points de vue et de créer des dialogues entre les personnages avec leurs désaccords sans donner une leçon et en même temps en faisant comprendre comment on peut évoluer dans son point de vue. Et puis, ça, au début, je n'avais pas prévu de placer dans le futur. Et puis finalement, en commençant à écrire, ça m'a paru assez évident, quoi. Donc, j'ai placé l'histoire ça se passe en 2030. Et là aussi, en fait, à travers la fiction dystopique, enfin, en tout cas, ça commence comme une dystopie, il y a cette idée d'identification aussi, de pas s'adresser uniquement à l'intellect des lecteurs, mais d'avoir une action plus émotionnelle. En choisissant 2030, en fait, j'ai fait le choix de choisir une date pas trop éloignée, donc qui permette de comprendre que ce que je décris, c'est pas une espèce de univers complètement délirant et improbable, mais que c'est juste ce vers quoi on va logiquement si on continue comme ça, et que c'est déjà en germe dans le présent. Et ça, je trouve que voilà, la narration, ça permet davantage de faire ressentir cet aspect-là, cette urgence-là, ou cette inquiétude, ce désir d'agir, que la théorie, qui parfois permet davantage de mettre à distance. Et puis ça s'inscrit aussi vraiment dans la tradition écoféministe. Il y a eu beaucoup d'écoféministes qui ont écrit de la fiction et de la science-fiction, Starhawk, Françoise Daubonne notamment. Donc c'était un peu aussi pour poursuivre cette lignée-là avec la conviction qu'on trouve déjà chez ces autrices, auxquelles je ne me compare pas du tout, mais voilà, qui m'ont inspirée, que c'est par la fiction aussi qu'on crée un nouvel imaginaire, des nouveaux récits, une nouvelle manière de raconter qui a une puissance transformatrice.
Et c'est aussi une très bonne initiation à l'écoféminisme. Mine de rien, en ligne de fond, on retrouve ça, et je pense que c'est un très beau cadeau à offrir à quelqu'un qui n'est pas encore sensible à ces questions. Parce que, alors, c'est différent de ton premier ouvrage, mais c'est vrai que ton premier ouvrage, si on l'offre à quelqu'un, bon, voilà, le message est clair, faut que tu t'y intéresses, etc. Là, c'est plus subtil, et je pense que ça permet de toucher, comme tu le disais, un lectorat complètement différent, et aussi peut-être un lectorat qui est presque désintéressé de la question.
Oui. Bah, ça me fait très plaisir que tu dises ça, mais effectivement, je crois qu'il y avait le désir de prendre par la main le lecteur ou la lectrice et de l'embarquer un peu mine de rien, un peu en douceur. Et je pense que, enfin, j'espère en tout cas que voilà, à travers l'histoire, les personnages, la fantaisie et puis le dessin d'Aurore qui a fait un travail incroyable. Magnifique. Ça puisse toucher au-delà de personnes déjà convaincues ou déjà intéressées. Et ce qui me fait plaisir notamment, c'est que... Enfin, moi, un truc qui m'a un peu déstabilisée dans la promotion de mon premier livre, c'est que dans les conférences que je faisais, etc., le public, c'était que des femmes. Ça m'est même arrivé une fois que l'intervenant avant moi, dans une sorte de série de conférences, s'adresse à un public mixte, et qu'il sort de scène, c'est moi qui arrive, et les mecs de la salle sortent. Et ça m'a vraiment énormément perturbée, parce que moi, j'ai l'impression que c'est un sujet qui s'adresse à tous, que je m'adresse à tous, que je ne crois pas du tout à la possibilité de changer les rapports entre hommes et femmes si les hommes eux-mêmes ne bougent pas. Enfin, ça me paraît évident que voilà, une relation, ça peut changer que si les deux termes changent. Que l'écoféminisme, en plus, il est porteur d'un message universel, d'un message de réconciliation. Donc voilà, ça m'a beaucoup perturbée. Et donc, je ne connais pas le lectorat de mon premier livre, mais du coup, je soupçonne fort qu'il soit très massivement féminin. Je pense que ça sera aussi le cas pour le roman graphique, mais je remarque que là, ces derniers temps, ça arrive que, par exemple, quand je fais des dédicaces, il y ait des mères qui les achètent pour leurs fils, ou bien des personnes qui les achètent pour leurs neveux. Et donc là, je me dis, ah tiens, ça c'est intéressant aussi de voir que, comme il y a un côté un peu plus camouflé dans le message, peut-être ça permet, par la tangente, d'embarquer plus d'hommes dans toute cette aventure.
Effectivement, je pense que c'est plus facile avec ce roman graphique qu'avec ton premier ouvrage. Mais tu sais, c'est aussi un lectorat très féminin parce qu'on a peut-être plus soif de changement que les hommes qui n'ont finalement pas toujours intérêt à ce qu'on vienne chambouler le monde dans lequel ils sont actuellement.
Bah oui et non. Enfin, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de privilèges des dominants. Et en même temps... On peut s'apercevoir aussi que, et d'ailleurs c'est une des convictions de beaucoup d'écoféministes, qu'il y a aussi une souffrance des hommes dans la façon dont le patriarcat les distord, enfin que en fait ça distord aussi bien l'identité féminine que l'identité masculine, et que devoir être un mec
viril,
voilà, viril, fort, qui pleure pas, qui est coupé de ses émotions. Enfin moi je suis assez attristée par un certain nombre d'hommes que je vois autour de moi, alors un peu plus vieux, enfin qu'on la cinquantaine et qu'on vraiment été formatés dans un moule très Rambo, quoi, et de voir à quel point ils sont à l'ouest sur leur propre vie intérieure, sur... Du coup, ils comprennent pas du tout leurs échecs amoureux, ou même ils comprennent pas du tout leurs échecs avec leurs enfants. Ça en fait des pères complètement nazes, quoi, super distants,
absent,
ou colériques, ou... Il y a vraiment cette conviction que je crois juste que le patriarcat est merdique pour tout le monde. Pas de la même manière et peut-être pas au même degré, c'est pas la même forme de violence, mais qu'en réalité, il y a aussi un intérêt pour les hommes à bouger, à changer, à se permettre d'explorer des rôles et des terrains et une vulnérabilité qui pour l'instant leur est souvent interdite et qui permet d'être pleinement humain.
Je te rejoins complètement, mais c'est vrai que j'ai tendance à penser que parfois, c'est plus facile de ne pas vouloir voir le changement qui est pourtant nécessaire. Merci beaucoup, Jeanne, pour
Merci
cet échange.
Toi.
C'était très intéressant. Je n'ai volontairement rien dévoilé sur ce roman graphique parce que j'ai envie de vous inciter, chers auditeurs et auditrices, à lire ce roman et à en profiter, à le savourer. Donc voilà, je n'avais pas du tout envie d'aborder l'histoire. Bien évidemment, vous pourrez consulter la barre de description pour lire un résumé, etc. Et vous le procurer si vous le souhaitez. Et Jeanne, merci beaucoup.
Merci à toi.
Et puis, à bientôt.
À bientôt.
Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à le partager à un proche passionné d'écoféminisme, à une amie qui peut-être n'est pas encore familière avec cette notion, ou tout simplement à toute personne que cet épisode pourrait intéresser. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite !